السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لجنہ امام اللہ کے اجتماع پر عموماً یہ روایت ہے.
Généralement au cours de l'ijtema de la lajna imla, je prononce le dernier discours et l'ijtema se termine avec la prière. Cette année-ci, l'ijtema de l'Ansarullah a été organisé au même moment, au même endroit. Et selon le programme, je devais m'adresser à vous en premier et ensuite aux Ansar en deuxième lieu. Ce fut là une première expérience où l'on a organisé l'ijtema de l'Ansarullah et de la Lajna Imaïla. L'on saura plus tard dans quelle mesure cette expérience fut une réussite après avoir reçu les points de vue des personnes présentes. Mais selon le rapport concernant la présence, on dirait que la présence est moins comparée à l'année précédente. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de transport, peut-être qu'il y a eu d'autres raisons. Ceux qui habitent loin sont présents, mais ceux de Londres ne sont pas venus en grand nombre cette année-ci. Je n'en sais les raisons, mais l'on saura plus tard, suite à vos commentaires, quels sont les avantages ou les désavantages d'avoir organisé l'ijtema ici. Je me tourne maintenant vers le sujet d'aujourd'hui. Ce sujet concerne à la fois les hommes et les femmes de la société Ahmadi. Puisque je m'adresse à vous directement, je vais parler dans le contexte des femmes. Tout ce que je vais dire est basé sur le Coran, les hadiths et sur les dires et les enseignements du Messie promis à l'Islam. Et il est évident que lorsque les califes parlent, ils se basent sur ces sources et ne se tournent pas vers d'autres sources. C'est pour cette raison que jamais les Ahmadis doivent croire ou penser que ces paroles s'appliquent aux femmes Ahmadis vivant qu'en Orient ou qu'en Occident. Quand je parle des femmes d'Occident, cela concerne ces femmes Ahmadis qui sont européennes de souche ou de différentes origines et qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Ou cela peut concerner ceux qui sont d'origine asiatique ou africaine et qui sont nés ici et qui ont grandi ici ou qui se sont établis ici depuis leur enfance. Nous proclamons et cette annonce est en accord avec ce qu'affirment l'islam et le Saint-Coran. Et cette annonce est en accord avec les déclarations du Saint-Prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que l'islam est la religion de la nature humaine. Et l'on ne peut dire que seuls les Arabes peuvent facilement mettre ces enseignements en pratique et que les non-Arabes ne peuvent mettre ces enseignements en pratique. Non, les enseignements coraniques sont en accord au tempérament des Arabes et praticables par eux, tout comme ils le sont pour ceux qui habitent ailleurs en Asie. Ces enseignements sont praticables par ceux qui habitent en Occident. Ces enseignements sont praticables par ceux qui habitent en Afrique comme par ceux qui habitent dans les îles ou aux Amériques. 1500 ans de cela, ces enseignements étaient praticables et ils le sont toujours aujourd'hui. Et jusqu'au jour de la résurrection, c'est cette religion qui va présenter des enseignements qui seront en accord à la nature de l'homme. Il est faux de dire que l'islam est une religion d'un autre âge et que ses enseignements sont d'une rigueur excessive, que ces enseignements sont âpres et difficiles à mettre en pratique. Toutes ces objections sont fallacieuses et futiles. Ce sont des objections qui sont soulevées avec vigueur par les critiques de l'islam. Le Saint-Coran est ce condensé de la moralité qui énonce les principes qui doivent régir et la maison et les relations internationales. Il énonce des principes qui concernent les devoirs des enfants comme les devoirs des États. Il nous enseigne comment protéger la paix au sein de la famille et il nous enseigne aussi des principes pour maintenir la paix au sein de la société. Et il nous présente aussi des principes d'or afin de maintenir la paix au niveau international. Aujourd'hui, lorsqu'on présente les enseignements de l'islam à ceux qui se disent appartenir à une société avancée et éclairée, eh bien, lorsque on leur présente les enseignements de l'islam, ils s'exclament en disant que si c'est cela ce que énonce l'islam, alors il n'en peut que résulter la paix, l'amour et la fraternité. Certains enseignements préconisent que la paix, la fraternité. Aucun musulman ahmadi sincère, homme ou femme, jeune ou vieux, ne doit en être embarrassé ou ne doit avoir honte de cet enseignement, et ils ne doivent point être victimes de complexes d'infériorité, à savoir que si en tant que musulmans nous mettons en pratique certains enseignements de l'islam, nous serons la cible des railleries des autres. Les autres vont ridiculiser notre parda ou notre burqa, où ils vont ridiculiser notre accoutrement, où ils vont ridiculiser notre prière, nos salats. On ne doit pas s'en soucier. Les jeunes ne doivent point s'en faire et ne doivent point être victimes de complexes d'infériorité suite à leurs paroles. Il y a les autres et les jeunes qui n'ont aucune relation avec la religion et dont les églises sont maintenant mises en vente. Ils sont fiers de ce qu'ils font et disent que nous avons raison d'agir ainsi et que nous pouvons tout faire au nom de la liberté. Mais le temps est en train de prouver qu'en raison de leur raisonnement, ils s'empêtrent davantage dans des bassesses morales. Les enfants sont si insolents envers leurs parents que maintenant, à la télé, on commence à critiquer cette liberté de trop qu'on a accordée aux enfants. Et ils disent que la paix de la société, la paix familiale et les bonnes manières des enfants sont si sérieusement mises à mal que nous devons fixer les limites. Les relations entre époux sont mises à mal. Il y a manque de tolérance et les relations de couple s'effritent et se terminent en rupture. Le taux de divorce a atteint son comble. On critique les mariages arrangés et on dit que c'est là une des raisons du divorce. Ceux de l'Occident, les non-musulmans, ne font pas de mariage arrangé. Pourquoi donc y a-t-il autant de ruptures de couple parmi eux? Il y a beaucoup de raisons derrière ces ruptures. Il y a ces ruptures en dépit du fait qu'ils font des mariages d'amour. Il y a d'autres raisons derrière ces ruptures en fait. Il y a l'intolérance, il y a l'impatience, il y a le fait que l'on viole les règles de la dignité. Les femmes ne préservent pas leur dignité et les hommes non plus ne respectent pas la dignité des femmes. Ensuite, il y a un climat de suspicion qui s'installe. L'on n'a plus confiance en l'autre et cela se termine en rupture. Nombre d'enfants de familles monoparentales sont coupables de nombre de méfaits. La société ne leur fixe pas des limites, la religion non plus n'en fait pas de même, afin qu'ils soient des individus qui vont apporter des avantages à la société. La loi non plus ne leur dit rien. Au contraire, la loi les soutienne. Mais la conséquence est évidente, que les taux de délits commis par ces enfants issus de familles monoparentales augmentent. Ils ne commettent pas ces délits par nécessité. Il doit y avoir une nécessité derrière ces délits, mais ils commettent ces délits tout simplement pour s'amuser. Des garçons et des filles forment des bandes afin de nuire aux autres pour s'amuser. L'état de l'économie est en train de s'empirer de jour en jour dans le monde en raison de l'inflation et de la crise du crédit. Et les problèmes de couple sont en train d'augmenter. Et les délits moraux sont en train d'augmenter. Comme je l'ai déclaré, ici les jeunes hommes et les jeunes filles se marient par amour. Apparemment, ils éprouvent un grand amour l'un pour l'autre. Mais en dépit de ce fait, après quelque temps, cela finit par une rupture et cela se passe dans la majorité des cas. Et ensuite, et les hommes et les femmes vivent leur vie séparément. Et ensuite, dans certains cas, le conjoint a tué le premier enfant de sa femme ou de sa conjointe. Il l'a tué à coups de poing ou en l'étranglant. Et il les tue par d'autres moyens aussi. Et quand on demande à ces mères « Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous pas arrêté votre conjoint lorsqu'il a tué ou allait tuer votre enfant ?» L'autre va répondre qu'il l'a fait de son propre chef et je n'ai pas d'objection à faire à ce propos. La mère, qui est considérée comme un parangon d'amour et de patience, s'est transformée en un exemple d'atrocité et de barbarie. Est-ce là cet enseignement éclairé que doit suivre une jeune femme ou une fille Ahmadi? Doit-elle suivre cet enseignement alors qu'elle possède, elle, un trésor incomparable d'enseignement divin? Les jeunes hommes Ahmadis et les jeunes femmes Ahmadis doivent être fiers du fait que nous avons reçu un enseignement de la part de notre Seigneur vivant et de la part de notre prophète vivant. C'est un enseignement sublime, un enseignement vivant, un enseignement coranique qui va embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Cet enseignement va bénir et embellir la vie de nos enfants. Cet enseignement va peindre nos murs d'amour. Cet enseignement va éclairer nos maisons de cette lumière. Une lumière qui va éclairer notre apparence et notre âme. Ici-bas, nous allons voir les signes du paradis et nous allons voir des signes du soutien de Dieu. Et nous allons entrer dans le paradis du plaisir de Dieu pour l'éternité. Respectez donc cet enseignement que Dieu nous a accordé et ne vous souciez pas de la vie d'ici-bas. Vous devez vous soucier de la vie future, la vie éternelle. Le verset que j'ai cité fait partie de ces versets que l'on récite lors de la célébration de la Nikah. Allah déclare, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et en a créé sa moitié, et qui de ce délai a répandu sur la terre de nombreux hommes et femmes. Craignez Allah au nom de qui vous faites appel les uns aux autres, et surtout en ce qui concerne les liens de parenté. En vérité, Allah vous surveille. Si les deux parties pratiquent ce qui est énoncé dans ces versets, il n'y aurait pas question de conflits familiaux. Il n'y aurait pas question de rupture ou que les beaux-parents vont créer des ennuis. Dans ce verset, il est dit que vous êtes tous nés d'une seule personne. Cela veut dire que vous avez été créés pour un but spécifique. L'homme et la femme, les deux époux, doivent chercher à atteindre ce but ultime. Essayez d'atteindre ce but, et un de ces buts est qu'après s'être liés, vous devez vous évertuer à établir la paix dans la société. Et la première chose qui concerne cette relation est que vous devez renforcer ce lien que vous avez établi. Renforcez donc cette relation afin qu'il n'y ait pas de rupture. Si la femme n'aime pas quelque chose en son mari ou en ses beaux-parents, elle doit faire preuve de patience et prier. Si au tout début de cette relation, avant même de se connaître, la femme commence à informer ses amis ou ses parents à propos de son mari ou de ses beaux-parents, cela va créer de la mésentente. Et il y aura rupture. Ici, il est dit que vous devez respecter les liens de parenté. Le Messie premier l'Islam a expliqué cela et a déclaré que les liens ici ne signifient pas les liens de sang. Lorsqu'on se marie, les beaux-parents deviennent des parents. Les frères du mari, ses parents deviennent les frères de la femme et ses parents. Et les parents et les frères et les sœurs de l'épouse deviennent les parents du mari. Si l'on pense ainsi, il ne pourrait pas y avoir de mésentente et les relations ne vont jamais s'envenimer. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers eux, tout comme vous le faites à l'égard de vos parents, de vos frères et de vos sœurs. Cela ne s'applique pas qu'à la jeune femme, mais cela s'applique aussi au jeune homme. Le jeune homme aussi doit prier et doit faire preuve de patience. Et les parents des deux côtés doivent agir de même. C'est-à-dire, ils ne doivent pas donner de mauvais conseils à leurs enfants afin qu'il y ait rupture, afin de détruire la paix de la société. Et dans ce premier verset, il est dit qu'en résultat de ce mariage, il vous incombe de donner une bonne éducation morale à vos enfants afin que le bien puisse se répandre dans la société. Et il est dit que cela ne va pas se faire tant que vous n'adoptez pas la taqwa. Que signifie adopter la taqwa? Cela signifie que vous devez agir selon les commandements de Dieu. Vous devez laisser de côté vos désirs personnels et vous devez chercher à avoir le plaisir de Dieu. Allah déclare que sachez que vous ne pouvez pas me tromper, car je vois chacune de vos actions. Si les couples Ahmadi ont en tête ce commandement, ils chercheront à mettre en pratique ces directives qui vont leur attirer son plaisir. À 5 reprises, dans ces versets concernant le Nikah, on trouve mention de la taqwa. Celui qui pratique la taqwa ne fera jamais face à des conflits, à des disputes au sein de sa famille. Celui qui respectera les liens de parenté, les parents des deux côtés, aura la bonne nouvelle de l'exaucement de ses prières. Et cela ouvre la voie vers des progrès spirituels. Cette relation que vous avez établie pour le mariage ne concerne pas uniquement des avantages personnels. Vous n'êtes pas marié pour avoir des enfants physiques uniquement. Vous avez établi cette relation afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et c'est là que vous pourrez faire une bonne tarbiya de vos enfants. Et c'est là que vous pourrez maintenir la paix dans la société, et c'est là que vous pourrez aussi renforcer votre lien avec Allah. Les hommes ont la responsabilité de faire de leur mariage et de leur relation un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. De même, les femmes ont la responsabilité de sacrifier leurs désirs pour un but ultime. Ce but est d'établir une relation avec Dieu et de répandre des gens de bonne nature. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a choisi ces versets. Car le mariage est certes le plus grand moyen pour la paix sentimentale et le plaisir personnel, mais ce n'est pas là sa seule vocation. Vous ne devez point oublier la taqwa au cours du mariage. N'oubliez point la crainte de Dieu. N'oubliez point l'éducation morale de la prochaine génération. N'oubliez point la paix de la société. Pour assouvir vos désirs personnels, n'égorgez point vos enfants comme les gens de ce bas monde. Mais protégez cette charge qui vous a été confiée et vous allez pouvoir protéger cette charge lorsque vous allez leur accorder la meilleure des tarbiyas, lorsque vous allez préserver la paix de votre cellule familiale, lorsque vous allez entre époux vivre dans une atmosphère de confiance. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que vous devez dire des paroles droites et claires, des paroles sans ambiguïté, et que vous devez susciter à la crainte de Dieu en vous, car tout cela va créer de la confiance et tout cela va renforcer les liens. Voilà donc ce que signifie la taqwa. Lorsque Dieu prodigue des conseils aux croyants, il les attire l'attention vers la vie future. Cela ne concerne pas uniquement la vie future. Il déclare que si vous faites de bonnes actions, vous vivrez dans un paradis ici sur terre. Donc, et les hommes et les femmes doivent utiliser cette formule. Les nouveaux couples doivent utiliser cette formule et les anciens aussi doivent en faire de même. Car les couples commencent à s'effriter lorsqu'on a eu 5 ou 4 enfants et l'on commence à se détester. Si on suit ce principe que l'on doit faire preuve de patience, qu'on va prier et qu'on va adopter la taqwa, tous ces conflits familiaux se transformeront en affection et on doit générer en soi ces changements. Sinon, vous n'allez pas respecter l'engagement que vous avez pris avec le Messie premier, alayhi salam. Il y a nombre de problèmes dans la famille parce que si le mari commet une erreur, la femme aussi en fait de même. Et ainsi, les conflits prennent de l'ampleur. Le mari a la responsabilité de s'occuper de sa femme, de lui accorder son droit. Le Messie premier l'Islam a même déclaré que si le mari savait à quel point c'est un péché que de léser les droits de sa femme et comment il sera châtié par Dieu, l'homme ne va pas se marier en craignant ce châtiment. Le saint prophète Mohammed lui a donné des directives à propos des droits des femmes. Il a dit que l'on doit accorder à la femme ce que l'on consomme soi-même. Le mari et les beaux-parents ne doivent pas expulser la femme de sa maison. Et aujourd'hui, on trouve nombre de cas où le mari ou les beaux-parents ont expulsé la jeune femme hors de la maison. Ensuite, le saint prophète Mohammed a conseillé les croyants en disant que le meilleur parmi les croyants est celui qui possède les plus belles manières. Et dans le domaine des excellences morales, le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux son épouse. Voilà donc à quel point l'homme doit respecter ses devoirs. Ceux qui ne le font pas sont des malchanceux. Mais les femmes qui ont eu des enfants doivent faire de leur mieux afin de préserver leurs cellules familiales. Certaines femmes, pour de simples broutilles, appellent la police et expulsent leur mari hors de la maison. Cela doit se faire lorsque les exactions de l'homme sont arrivées à leur comble, lorsqu'il continue à être cruel. Arrivé à ce point, la femme a le droit d'informer la police et d'informer la jamaat. En raison de ces conflits, en raison de cette colère temporaire, il y a rupture de couple. Mais ces jeunes femmes Ahmadis ne vont pas trouver de mari à l'avenir. Et si les parents sont vivants, ces parents ont des soucis à leur propos. Dans les exemples que nous voyons ici, nous voyons que les enfants de parents uniques deviennent incontrôlables. Et à l'école, dans la majorité des cas, ces conflits sont créés par ces enfants de familles monoparentales. Comment le saint prophète Mohammed a-t-il décrit le statut de la femme? Il a déclaré que le monde est une provision pour la vie d'ici-bas et la meilleure provision que l'on peut posséder sur terre est une épouse vertueuse. Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'une épouse vertueuse. Donc, on a fait comprendre aux hommes qu'ils doivent chercher des femmes vertueuses. Et les femmes aussi doivent comprendre leur statut, c'est-à-dire qu'elles doivent vivre en accord avec ce que désire Dieu et son prophète. Comment Allah et son prophète ont-ils décrit la meilleure des épouses? Le saint prophète a déclaré, c'est celle qui accomplit ce que son mari lui dit de faire avec gaieté et celle qui ne fait pas ce que son mari l'empêche de faire. Si le mari ne possède pas de taqwa, c'est difficile d'agir ainsi. Mais même dans ces cas, on doit faire de son mieux pour préserver sa cellule familiale et afin d'éviter des conflits. La maison dans laquelle on agit selon la taqwa a été décrite par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dans cette maison, le mari se lève la nuit pour faire des prières surrogatoires. Et si sa femme dort à point fermé, il la réveille et utilise de quelques gouttes d'eau pour la réveiller. Et si la femme se lève en premier, elle doit adopter la même méthode. Et lorsque dans de telles maisons, le mari se lève pendant la nuit afin d'avoir le plaisir de Dieu, cette maison sera à l'image du paradis. On est venu me voir pour une question de dispute conjugale en raison de la brutalité du mari. Le couple était au bord de la rupture et ils avaient 4 ou 5 enfants. Je les ai conseillés, il y a eu de l'amélioration et ensuite encore une fois, la femme a demandé le divorce. Mais j'ai prié et j'ai fait des efforts et ils se sont réconciliés. Et maintenant, quand ils viennent pour la prière du matin, quand je les vois partir, je suis réellement content. Je suis content qu'Allah les a guidés et qu'ils ont rétabli leur relation pour la cause de leurs enfants. La femme et l'homme ne doivent pas uniquement se soucier de leurs sentiments. Ils doivent aussi se soucier des sentiments de leurs enfants. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait comprendre aux femmes leur responsabilité concernant la prière, mais en dépit de ce fait, il a fixé certaines limites. Il a déclaré que sans la permission du mari, la femme n'a pas le droit de faire des jeûnes surrogatoires. Et afin d'établir une atmosphère de confiance à la maison, la femme ne doit pas laisser entrer personne sans la permission de son mari. Mais cela ne veut pas dire non plus que le mari doit la contraindre outre mesure. En tout cas, dans certaines maisons, on invite des gens qui peuvent susciter des doutes. Donc la femme doit tout le temps prendre des précautions. Il est dit que si vous êtes croyant, vous ne devez point nourrir haine et animosité à l'égard de votre épouse croyante. Vous devez voir ses bonnes qualités. Vous ne devez pas chercher ses défauts. Voilà donc un conseil donné aux hommes ici. Et pour le mariage des jeunes filles, le saint prophète paix soit sur lui a énoncé des principes. Une fois, un père a fait une proposition à sa fille. La fille a rejeté cette proposition. Et on a présenté ce cas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que on va marier la fille avec la personne de son choix. Donc, si les jeunes filles marchent sur les voies de la taqwa, et si elles ont un choix à présenter à leurs parents, l'on ne doit pas insister à dire le contraire et à mettre de l'avant les questions de la famille. On doit prier avant de prendre une décision concernant le mariage. Et la jeune fille et les parents doivent prier en ce sens. Mais je ne dis point que les jeunes femmes peuvent se marier avec la personne de leur choix et qu'elles peuvent se marier hors de la jamaat ou qu'elles peuvent se marier avec des non-Ahmadis ou avec des Ahmadis dont le niveau de la foi est très bas. Les jeunes filles doivent avoir cela en tête. S'il y a de telles questions, elles doivent présenter cela au calife, elles doivent passer par le système de la Jamaat, et ensuite on pourra donner le conseil si elles peuvent se marier ou pas, tout comme on a présenté ce cas au saint prophète Mohammed B. Sassoualoui. Mais une jeune fille pieuse doit aussi savoir que quand une fois le saint prophète Mohammed B. Sassoualoui a dit à un père de marier sa fille avec la personne de son choix, la jeune femme, qui était une vraie croyante, a déclaré que je vous ai présenté ce cas afin d'établir les droits des jeunes femmes. Car dans certains cas, on impose par force aux jeunes filles à se marier avec une personne du choix des parents. On leur dit qu'elles doivent se marier avec telle ou telle personne, sinon ses parents seront tout le temps en colère contre elles et qu'elles ne vont pas s'occuper d'elles. La jeune femme a déclaré que vous avez déjà donc établi le droit des jeunes femmes, c'est pour cette raison que je n'ai pas d'objection. Je vais me marier avec la personne du choix de mon père. C'est donc là un très bon plan de la part de cette jeune femme. Les jeunes femmes doivent donc montrer cet exemple d'obéissance et doivent être respectueuses à l'égard de leurs parents. Elles ne doivent pas être entêtées et doivent prier. Et si, après avoir prié, elle a de la consolation ou elle est en paix à ce propos ou qu'elle voit des rêves, pas des rêves qui sont en accord avec ses désirs, mais si elle voit des rêves après avoir prié, sans aucune arrière-pensée, elles doivent en informer ses parents. Et les parents aussi doivent prier et doivent demander aux autres personnes aussi de prier afin de voir si ce choix est bon ou pas. Je vais présenter maintenant quelques conseils préconisés par Hadrat Amajan, l'épouse du Messie premier l'Islam. C'était des conseils qu'elle a prodigué à Nawab Mubaraka Begum Sahiba, sa fille aînée. Avant son mariage, elle a dit à sa fille qu'elle ne doit rien cacher à son mari. Elle lui a dit, ne fais rien en cacher, ne fais pas ce que tu penses devoir dissimuler à ton mari. Le mari ne te voit pas, mais Dieu est en train de te voir. Et ensuite, l'affaire va sortir et tu ne vas plus inspirer le respect. Elle a déclaré aussi que si tu fais quelque chose contre le désir de ton mari, tu ne dois pas dissimuler cela. Tu dois tout dire clairement, car c'est en cela que réside ton honneur. Si tu caches cela, tu n'auras plus de dignité. Et ensuite, elle a dit que ne parle pas quand ton mari est en colère. S'il est en colère contre un enfant ou un serviteur et que tu sais qu'il n'a pas raison, s'il est en colère, ne lui dis rien. Quand l'homme est en colère et que tu vois qu'il est dans l'erreur, tu ne dois rien dire. Car quand l'homme est en colère, il n'a aucun respect pour la femme qui discute avec lui. C'est pour cette raison donc qu'il y a ces disputes. C'est-à-dire, l'homme se met en colère, il commence à réprimander une personne ou son enfant, et la femme s'immisce dans cette affaire et la dispute s'envenime. Et il déclare que si dans sa colère il dit quelque chose, ce sera là un grand déshonneur pour toi. Lorsque l'homme s'est apaisé, tu peux lui informer à propos de son erreur. Et les hommes et les femmes doivent se souvenir de cette formule évoquée dans un hadith où il est dit que si on est en colère et qu'on est debout, on doit s'asseoir ou on doit faire ses ablutions et la colère va disparaître. Lorsque je reçois de telles doléances, je m'adresse aux hommes et je leur dis la même chose, à savoir qu'ici, il n'y a pas de manque d'eau. Si vous êtes en colère, entrez sous la douche ou mettez votre tête sous le robinet et la colère va disparaître. Hadrat Amajan déclare que tu dois considérer tes beaux-parents et ses enfants et ses parents comme tes parents. Cela a été mentionné dans un hadith et le Messie premier salam aussi a dit la même chose, à savoir que l'on doit respecter ses beaux-parents et les considérer comme des parents. Il a aussi dit que ne pense pas du mal des autres. Si même on commet un mal contre toi, tu dois tout le temps désirer le bien pour les autres. Ne pense jamais du mal des autres. Et même si l'on est injuste envers toi, souhaite tout le temps le bien pour tout le monde et ne te venge pas. Car grâce à ces actions, tu verras que Dieu sera tout le temps avec toi. Ensuite, il disait aux jeunes filles qui allaient se marier qu'elles ne doivent rien dire ou faire qui vont générer de la haine dans le cœur de ses beaux-parents, car cela sera déshonneur pour elle et pour sa famille, et qu'elles ne doivent pas s'immiscer dans les affaires de ses beaux-parents, et qu'elles ne doivent pas non plus se plaindre à son mari à propos de sa belle-mère ou de sa famille. Hadrat Nawab Mubarakah Begum Sahiba, la fille aînée du Messie premier salam, a aussi évoqué un conseil important du premier calife. Un conseil que le premier calife lui a donné et qu'il a donné aux autres jeunes filles. Et je pense que ce conseil est encore plus important aujourd'hui et que l'on doit suivre ce conseil. Et les jeunes filles de 12 ou 13 ans doivent faire cette prière. Ces jeunes adolescents doivent faire cette prière. Le premier calife s'est adressé à elle et lui a dit que l'on ne doit pas s'embarrasser devant Dieu. Tu es certes petite, mais prie tout le temps. Demande à Dieu de t'accorder un époux pieux et béni. Ce conseil de Nawab Mubarakah Sahiba est très important et elle a déclaré que cette prière est importante afin que les enfants amassent un trésor de prière pour leur vie future. Elles doivent prier afin d'amasser ce trésor de prière et au moment voulu, Allah va vous accorder une partie de ce trésor. Mais prier pour un bon époux ne signifie pas rêvasser et bâtir des châteaux en Espagne. Elle a déclaré que vous êtes trop jeune pour vous marier. Vous ne pourrez pas vous marier. Vous devez étudier, vous devez être une personne apte à servir la Jamaat. Et certainement, vous aurez un bon époux. Donc, tout le temps, les enfants doivent prier en ce sens. Mais elles ne doivent pas forger un point idéal, car en cherchant l'idéal, elles vont commettre des erreurs. On doit aussi choisir avec précaution ses amis à l'école. Elles doivent choisir donc avec précaution ses amis à l'école. Les jeunes filles vont avoir comme amis des jeunes filles, mais elles doivent avoir comme amis des jeunes filles qui vont éviter de mauvaises actions et qui seront dites de confiance. À l'école, sous le couvert de l'amitié, Satan arrive à agir et pousse à faire de mauvaises actions. Et comme je l'ai dit, les femmes doivent préserver leur dignité. Les jeunes filles doivent préserver leur dignité et leur pureté. Et sachez que ce que vous ne pouvez faire devant vos parents, devant vos aimés et devant les responsables de la Jamaat, eh bien ces actions sont des erreurs, des poisons, des actions qui vont vous mener vers le péché. C'est pour cette raison que vous devez tout le temps accomplir des actions pures, des actions que vous pouvez faire devant tout le monde. Les jeunes filles à la fin de la période de la Nasrat, c'est-à-dire des jeunes filles de 12 ou 15 ans, et les jeunes filles de 15 ans à monter doivent se souvenir de ce conseil, car c'est au cours de cette période que Satan essaye de maîtriser les hommes. Et comme je l'ai déclaré, ne soyez point influencés par ceux qui n'ont pas de religion. Dajjal use de différents moyens pour vous prendre dans ses filets. Des fois, sous le couvert de l'amour, des fois, en inspirant la crainte, il essaye de vous prendre dans ses filets. Priez donc pour vous protéger de ces influences. Je vais mentionner donc aussi un rêve important de Nawab Mubarakah Begum Sahiba. Elle prodiguait des conseils à des jeunes filles à mentionner ce rêve. Elle a déclaré que j'ai vu que le Messie premier l'Islam se trouvait dans la cour de notre maison à Qadian. Il était assis sur une chaise et j'étais à côté de lui et il y avait avec moi Mansoura Begum qui avait 2 ans quelques. Mansoura Begum était l'épouse du troisième calife, sa première épouse. Donc elle était avec moi dans ce rêve et j'ai vu qu'une personne portant des vêtements blancs s'est approchée du Messie premier l'Islam. Et il a demandé quel est l'ordre du Messie à propos des jeunes filles. Cette personne a déclaré quel est l'ordre du Messie premier l'Islam à propos des jeunes filles. Le Messie premier l'Islam était assis et lui a posé cette question. Quel est l'ordre du Messie premier l'Islam à propos des jeunes filles? Avec vigueur, le Messie premier l'Islam a répondu que tant que vous n'allez pas donner la base de l'Ahmadiyya à vos jeunes filles, l'édifice de l'Ahmadiyya ne va pas tenir debout. Et Nawab Mubarakah Sahiba a dit que j'ai interprété ce rêve et j'ai compris que l'on doit donner une bonne éducation, une bonne tarbiyah aux jeunes filles. On doit leur donner une très bonne éducation afin qu'elles puissent donner une très bonne éducation religieuse à leurs enfants. Et afin qu'il y ait tout le temps des générations de personnes vertueuses. Et il est aussi dit que les jeunes femmes doivent se marier avec des jeunes filles Ahmadis. Et il est dit donc que les jeunes hommes Ahmadis et leurs parents doivent les pousser à se marier avec des jeunes filles Ahmadis. Si on ne donne pas les jeunes femmes Ahmadis à se marier à l'extérieur, les jeunes hommes Ahmadis doivent sacrifier leurs sentiments et aimer les jeunes femmes Ahmadis. Les jeunes hommes Ahmadis doivent se marier avec des jeunes femmes Ahmadis afin qu'il y ait de bonnes générations. Une mère a une grande influence sur son enfant. L'enfant est influencé en premier par sa mère. Elle a déclaré que j'ai rapporté ce rêve à un nombre de femmes et je leur ai dit que les gens de l'extérieur ont une influence destructrice et vous avez la responsabilité de baser l'édifice de l'Ahmadiyya sur des fondations fermes et solides. Les jeunes filles et les jeunes femmes n'ont pas peu d'importance, et comme il est dit à propos de ce rêve, que le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit leur donner une bonne base, on doit leur donner une bonne éducation, on doit leur accorder une bonne tarbiya, on doit leur donner une bonne éducation intellectuelle et morale. Qu'Allah plante cette graine de la vertu et de la taqwa dans les cœurs de chaque jeune fille. Si nous avons pu établir cela, nous aurons la garantie d'une bonne tarbiya de nos enfants et de nos générations futures. Les jeunes filles et les jeunes femmes doivent comprendre cela et il incombe aussi aux parents d'agir ainsi. Et chaque responsable de la Lajna Imaïla doit en faire de même. Si tous les responsables ont pu faire leur tarbiya, elles pourront faire la tarbiya des autres. C'est pour cette raison qu'en premier lieu, les responsables doivent se réformer et doivent agir selon les enseignements du Saint-Coran. C'est cette tarbiya qui va mettre fin aux disputes et aux conflits familiaux. Cela va résoudre les problèmes de la société et va préserver la dignité de la jamaat. Et ainsi, on pourra s'occuper des générations futures et jouir de la proximité de Dieu. Qu'Allah fasse que vous puissiez tous, grands et petits, mettre en pratique ces conseils. Amin.